Merci, Solveig. Alors, je commence en vous posant cette question. Peut-être une question un peu directe pour vous. De temps à autre, c'est bien de poser une telle question, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui vous passionne le plus dans cette vie? Quelle est votre plus grande ambition pour votre vie? Si nous demandons à quelqu'un d'autre, quelle a été la chose la plus importante pour certains de nos diacres que nous venons de nommer aujourd'hui, pour Monique par exemple, pour Koun, pour Joël, pour Myriam? Que pensez-vous que nous dirions de ces personnes? Que dirions-nous de toi? Certains, je pense, mettront un accent ambitieux sur un accomplissement personnel. C'est ça ce que vous souhaitez, surtout dans ta vie. Jouer un rôle pour diminuer le CO2 dans l'atmosphère, vous serez satisfait si on dit cela de vous. Lancer un réseau social qui changera la vie quotidienne des milliards de personnes dans l'avenir. Devenir éventuellement un écrivain, un scientifique, un sportif célèbre. Aider ceux qui sont dans le besoin, à grande échelle. Et peut-être tu mettras l'accent plutôt sur l'épanouissement personnel à travers la relation, une relation intime. C'est ça surtout que vous cherchez, une vie de famille, peut-être unie et réussie, de pouvoir mourir en paix, sans maladie grave. Entouré d'une famille qui continue à l'heure de votre décès à t'aimer. D'autres, certainement ici présents, mettront un accent aussi sur l'engagement spirituel dans la vie, d'avoir contribué à l'élargissement du royaume de Dieu, d'avoir fait des disciples de Jésus-Christ, d'avoir été fidèles dans le service de notre Dieu au sein d'une église locale. Évidemment, il ne faut pas forcément choisir entre l'un ou l'autre de ces différents domaines. On peut bien réussir, par exemple, en tant qu'architecte, tout en contribuant à la construction du royaume de Dieu. On peut souhaiter, bien entendu, une vie de famille paisible et intime, tout en espérant être fidèle dans le service de la famille de Dieu. Mais ce qui regroupe ces réponses, du moins jusqu'à un certain point, c'est qu'elles ont toute leur finalité dans cette vie-ci. Aujourd'hui, nous arrivons donc à la fin du livre de la Genèse, et du coup, on arrive enfin aussi à la fin de la vie de Jacob. Jacob, qui lui est présent dans le livre de la Genèse depuis le chapitre 25. Donc ça fait 25 chapitres où il est présent. Un homme au début tellement ambitieux, lui, disons-le, aussi un peu égoïste. À plusieurs moments, on aurait dit qu'il était sur le point de mourir dans ces derniers chapitres. Mais là, dans notre texte de ce matin, chapitre 49, verset 33, il meurt. Il expira, dit le texte, et fut réuni au sien. Et à la fin du chapitre 50, vous l'avez remarqué, verset 26, c'est son fils, Joseph, qui meurt lui aussi. Lui, après une vie bien, bien remplie. Lui, Joseph, qui a vu, qui a vécu tellement de choses effrayantes, des choses choquantes. Des choses tristes, mais aussi des choses inattendues, des richesses inimaginables, des réconciliations émouvantes avec ses frères. Joseph, lui, il est enterré en Égypte. Jacob, son père, quant à lui, il est enterré plutôt en Canaan. Et ce qui frappe dans les deux cas, les deux décès, lorsqu'on arrive à la conclusion de leur vie, Et ils sont encore lucides juste avant leur mort pour comprendre que cela est le cas. C'est que l'accent ne tombe pas sur leurs accomplissements, mais l'accent tombe sur leur espérance de ce qui arrivera après leur mort. Ce qui les passionne au moment de mourir, ce n'est pas une fierté par rapport au passé, mais ce qu'ils présentent comme étant leur avenir. Tous deux, ils témoignent, en fait, d'une espérance lors de la mort. Pas de vagues sentiments par rapport à l'inconnu face à la mort, mais une ferme assurance quant à leur avenir après la mort. Alors toi, tu vois la mort, peut-être encore loin, peut-être plus proche. Évidemment, nous ne savons pas exactement quand cette mort arrivera. Et toi, tu vois la mort comment? Avec crainte? Avec besoin de prière des autres, car vous n'êtes pas sûr si vous allez devoir faire face au purgatoire, par exemple? Avec du désespoir? Car pour toi, c'est l'inconnu total, ou pire, pour toi, c'est juste la fin. Avec indifférence, car vous en avez marre d'y penser, vous voulez juste profiter de la vie. Avec éventuellement résignation, car cela vient, quoi qu'il en soit, on ne peut pas l'éviter. Avec regret, quand tu vois tant de choses qui ne sont pas tournées comme tu aurais souhaité. Avec détermination, car sûrement tes efforts religieux doivent faire la différence à ce moment-là. Joseph et Jacob nous invitent à la fin de ce livre à voir la mort avec foi dans le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Car la mort à la fin de la Genèse anticipe, et vous voyez ça dans le titre que j'ai donné à ce message, anticipe la vie. La Genèse n'est pas la fin, mais plutôt le commencement. Et Joseph, Jacob, anticipaient ce commencement. Ce commencement anticipe aussi l'espérance chrétienne face à la mort. La délivrance qui appartient à tous ceux qui sont en Jésus-Christ, qui ont placé leur confiance en Jésus-Christ. La fin de la Genèse, alors, la mort qui anticipe la vie. Pour trois raisons, chers amis, que nous allons essayer de voir dans ce texte que nous avons lu ensemble. D'abord, Dieu est bien plus puissant qu'on ne le pense. Dieu est bien plus puissant qu'on ne le pense. Au premier abord, ce sous-titre peut paraître un peu bizarre, pour un morceau de texte qui parle de la mort et ensuite de l'ensevelissement de Jacob. D'ailleurs, le texte martèle ces aspects, n'est-ce pas? Le corps de Jacob est embaumé, nous dit le verset 2, deux fois, et encore une troisième fois au verset 3. C'est la fin de ce personnage Jacob. L'embaumement, c'était bien sûr une pratique égyptienne. Pour un personnage d'un haut rang, verset 3, cela prit 40 jours pleins. Toute une affaire, donc, de bien respecter ces rites égyptiens. Mais le corps de Jacob ne restera pas dans l'une de ces splendides chambres funéraires en Égypte, digne d'un roi. Quand Jacob insistait qu'il soit enseveli en Canaan, la terre promise de la part de Dieu à Abraham, le grand-père de Jacob. Là, il y avait une humble grotte où Abraham et sa femme avaient été ensevelis. Et de nouveau, il y a un accent sur ce mot « ensevelissement » dans les versets, entre les versets 5 et 14, le mot apparaît 5 fois. Il est embaumé, donc Jacob, en Égypte, déclaré mort, si vous voulez, en Égypte. Et c'est intéressant que lorsque le texte dit cela au verset 2 du chapitre 50, Jacob, on l'appelle plutôt Israël. Les médecins, dit le texte, embaumaient donc Israël. Car Jacob représente le peuple de Dieu. C'est de lui qui est né la nation d'Israël. Mais Moïse, qui a écrit ceci, sait très bien que si Israël est mort en Égypte, elle n'y restera pas. Elle montera vers la terre promise. Et oui, vous avez raison d'entendre, j'espère, si vous connaissez un tout petit peu votre Bible, des échos qui préfigurent un autre exode de l'Égypte qui donne de la vie à cette nation d'Israël qui était 400 ans plus tard, nous dit le début du livre de l'Exode, esclave en Égypte. Et par quel chemin menait-il le cercueil de Jacob, toute cette procession importante vers Canaan? Verset 10 nous dit, « Arrivé à l'aide d'Atad qui est au-delà du Jourdain, ou de l'autre côté du Jourdain, on peut le traduire, ils firent une grande lamentation. C'est de là que les fils de Jacob entrent en Canaan pour arriver à la grotte d'Abraham. C'est aussi par là, 400 ans plus tard, que le peuple de Dieu est entré dans la terre promise, de l'autre côté du Jourdain. C'est de là qu'ils ont traversé le Jourdain pour arriver à Jéricho, si vous vous souvenez peut-être de cet épisode. Jacob, alors, si vous voulez, en se faisant ensevelir, non pas en Égypte, mais en Canaan, il anticipe, il préfigure l'exode qui aura lieu. Israël ne restera pas toujours mort en Égypte. Non, elle reviendra à la vie. Dieu l'amènera vers la terre promise. Parce que Dieu, vous voyez, est bien plus puissant qu'on ne le pense. Bien que petit et à la merci du Pharaon, Dieu fera en sorte que la famille de Jacob, Israël, deviendra un peuple, retournera au pays promis. D'ailleurs, peut-être vous avez remarqué aussi qu'il y a une grande distinction avec l'exode qui aura lieu plus tard. C'est qu'il y avait une représentation forte ici, à la fin de la Genèse, de la cour du Pharaon qui accompagnait Joseph et ses frères. Le Pharaon, au lieu d'être offusqué lorsque Joseph lui demande de façon un peu délicate la permission de refuser son offre d'honorer son père avec les funérailles égyptiennes, lui, ce pharaon, il réagit positivement. Non seulement en lui accordant la permission, mais en facilitant la tâche de Joseph avec ce cortège impressionnant qui l'accompagnait. Le successeur du pharaon, quelques générations plus tard, début du livre d'Exode, ne réagissait pas de la même façon, bien entendu. Non, ce pharaon-là n'a pas compris ce que ce pharaon-ci a compris. Le principe de la bénédiction qui découle d'Israël. Qu'est-ce que Dieu avait dit à Abraham, Genèse 12 ? Je bénirai ceux qui te béniront. Je maudirai celui qui te maudira. Ce pharaon est béni par Joseph, il le sait. Il s'aligne donc du côté de Joseph et de sa famille. Mais son successeur ne prendra pas la même décision. Il pensera à tort que la taille de son pays, la gloire d'Égypte, lui permet de maudire ce petit peuple d'Israël, avec des conséquences désastreuses pour son propre pays. Il tombera, lui, sous la malédiction de Dieu. Il aurait dû faciliter le retour d'Israël en Canaan. Cela aurait été la décision sage à prendre. Mais il choisissait une autre voie. Il se croyait plus fort que le Dieu d'Israël, plus puissant que ce Dieu-là. À tort. Car Dieu est bien plus puissant qu'on ne le pense. Il est capable, savez-vous, de nous amener de la mort à la vie. Et toi alors, cher ami ici présent, tu t'alignes de quel côté de ce Dieu qui agit en conformité avec ses promesses? Peut-être poliment présent ce matin, mais loin de lui dans ton cœur. En train de penser, comme Adam et Ève, comme Pharaon plus tard, que le meilleur chemin pour l'épanouissement se trouve en rejetant les voies de ce Dieu, que toi tu es le grand, et lui, bon, il n'est pas aussi puissant que cela, n'est-ce pas? Mais ce Dieu n'est pas faible. Il est bien plus puissant qu'on le pense. Pour tous ceux qui se tournent à Jésus-Christ, il nous mène, nous dit le Nouveau Testament, de l'esclavage à nous-mêmes, à notre péché, à la délivrance, de la mort à la vie. Celui qui croit en moi, disait Jésus, vivra quand même il serait mort. Tu crois cela? C'est le fondement, cela, de l'espérance chrétienne. Mais deuxièmement, Dieu est bien plus grand qu'on ne le pense. Dieu est bien plus grand qu'on ne le pense. Ici, dans ces versets 15 à 20 du chapitre 50, nous arrivons au texte qui résume l'ensemble de l'histoire de Joseph que nous avons parcouru depuis le chapitre 37. Car une fois que Jacob n'est plus là, qu'il est mort, les frères de Joseph qui l'ont trahi à 20 ans témoignent d'une anxiété qui traîne encore chez eux depuis plus de 20 ans. Verset 15, « Et si Joseph devenait notre adversaire et nous rendait tout le mal que nous lui avons fait ?» Du coup, ils mettent en œuvre une tentative désespérée d'influencer Joseph. Ils concoctent, il paraît, cette histoire que Jacob leur avait donnée à un autre avant de mourir, verset 16, « S'il te plaît, pardonne la transgression de tes frères et leurs péchés quand ils t'ont fait du mal, je t'en prie, pardonne maintenant la transgression des serviteurs de Dieu, de ton père. » Comment Joseph réagit-il face à cette tentative maladroite, malhonnête de leur part? Fin du verset 17. Il se mit à pleurer quand on lui dit cela. Il ne pleure pas pour lui-même ici, les amis, avec de l'apitoiement de soi. Non, il pleure pour eux, pour ses frères. On va y revenir lors de notre troisième point. Mais d'abord, voyons comment Joseph a digéré tout ce qui lui est arrivé depuis la trahison de ses frères au chapitre 37. Que dit-il ici? C'est important. Verset 19, Joseph leur dit, « N'ayez pas peur. Suis-je à la place de Dieu? Le mal que vous comptiez me faire, Dieu comptait en faire du bien, afin de faire ce qui arrive en ce jour pour sauver la vie d'un peuple nombreux. » Donc il les console, n'ayez pas peur. Ensuite, il leur fait comprendre qu'il y a deux façons de voir le même événement, la trahison de ses frères. D'abord, nous pouvons voir cela sur le plan humain. Et sur ce plan-là, il ne minimise pas le péché. Vous voyez cela, c'est important. Le mal que vous comptiez me faire. Bon, il ne dit pas, « Ah, tu sais, Ruben, Simeon, Lévi, Simeon, les autres. Tu sais, les gars, après ces dernières années, j'arrivais à voir que, oui, vous aussi, vous avez eu vos lots de difficultés. » Vous aussi, je comprends, vous avez souffert sous la main d'un père. peut-être pas suffisamment stable et présent dans notre vie lorsque vous étiez jeune. Et après tout, je ne suis pas donc mort. Donc écoutez, ce n'est pas aussi mauvais que cela, ce que vous avez fait. Non. Ce qu'ils ont fait, sur le plan humain, ils ont fait le mal. Mais Joseph a appris également à voir cela sur le plan divin, au-dessus du plan humain. Car à travers le même événement, il peut aussi dire « Le mal que vous comptiez me faire, Dieu comptait en faire du bien. » Écoutons bien. Ce n'est pas que Dieu arrivait à récupérer la situation après le mal qu'on commis les frères. Ce n'est pas non plus que Dieu transforme le mal en bien. C'est que Dieu est tellement grand qu'il peut être souverainement au-dessus le mal, non pas qu'il soit responsable pour le mal, de façon à ce que, d'un point de vue divin, Dieu voulait, par ce même acte, en faire du bien. Alors ça, chers amis, c'est un réflexe profondément mûr pour un croyant. Car ce n'est pas facile, cela. Cela ne se dit pas à la légère. Non, c'est une théologie, si vous voulez, une façon de penser par rapport à Dieu, que Joseph, lui, il a appris à l'Institut de la souffrance dans sa propre vie, en Égypte, lorsqu'il voyait que, oui, de façon surprenante, inattendue, Dieu a permis de telles choses lui arrivent pour que de bénédictions en résultent pour tout le peuple de Dieu. Qu'il soit sauvé, le peuple de Dieu, de la famine. Qu'il devienne ainsi ce peuple nombreux. Lors de la souffrance elle-même, Joseph ne pouvait pas savoir dans quel sens tout ceci, tous ces événements, tous ces désastres, d'un point de vue personnel, concouraient pour le bien de tous ceux qui aiment Dieu, pour reprendre un verset connu du Nouveau Testament. Mais avec du recul, lui, oui, il pouvait le voir. Sans qu'il dise tant que le mal n'était pas mal. Non, c'est ça ce qui est important. Il maintient, il insiste à maintenir à la fois le regard humain, où c'est nécessaire de classer l'acte de ses frères comme étant mal, mauvais, mais à la fois le regard divin, où il peut comprendre que Dieu, à travers ce même acte mauvais, le voulait pour le bien. Alors, bien sûr, chers amis, la capacité de comprendre le comment de ces deux façons de regarder simultanément le même événement nous dépasse, ne nous appartient pas. Cela va plus loin que nos petits cerveaux humains. Limité comme nous le sommes. Mais Dieu n'est pas limité comme nous. Et ça, Joseph a pu méditer, a pu comprendre. Et donc, ce que moi je veux souligner, c'est à quel point cette connaissance permettait à Joseph de ne pas rester amer par rapport au mal, de ne pas être fataliste, de ne pas être écrasé pour le restant de sa vie par le mal dont il devait subir. Il ne cherchait pas, lui, à se venger pour ce mal. Que dit-il ? Suis-je à la place de Dieu ? Le mal est à l'œuvre, certes, mais Dieu également est à l'œuvre, au-dessus de ce mal, d'une façon qu'on ne peut parfois pas encore comprendre. Dieu, voyez-vous, il est plus grand qu'on ne le pense. Tout croyant face au mal, que cela soit le mal des autres, victime d'un abus éventuellement, victime d'un abandon, d'un accident, divorce. Que cela soit le mal dont nous expérimentons tous dans un monde déchu, la maladie, la mort, la frustration que tout ne tourne pas comme on aimerait que ça tourne. Tout croyant face au mal est invité à ne pas minimiser la peine dont il doit faire face, mais à comprendre que même cet acte mauvais ne s'opère pas indépendamment de la main souveraine de notre Dieu. Est-ce que tu sais cela? Crois-moi, je sais que ce n'est pas toujours facile dans nos vies. Oh, combien cela est important, afin de ne pas rester amer ou écrasé dans nos vies par rapport au mal. Nous voyons cela, chers amis, de façon suprême, suprême à la croix de Jésus-Christ. Lors de notre première prédication sur Genèse 37, en 2004, je pense qu'on avait commencé, ce verset a été cité, que je vais vous citer. Mais nous allons le citer de nouveau, car c'est fondamental pour nous. Acte 2. Ici, je ne l'ai pas sur le livret, donc vous allez devoir chercher ça, mais vous pouvez écouter. Acte 2, verset 23, nous dit ceci. « Cet homme, Jésus, livré selon le dessein arrêté et selon la prescience de Dieu, vous l'avez fait mourir en le clouant à la croix par la main des impies. » Vous voyez ça, le regard humain qui est là? Vous l'avez fait mourir par la main des impies. C'était mauvais, profondément mauvais, de mettre à mort l'auteur de la vie. Pierre, d'ailleurs, quelques versets plus tard, qui dit cette vérité en acte 2, appellera ceux qui l'écoutent à la repentance. Mais en même temps, à travers le même acte, la croix de Jésus-Christ, il y a aussi, vous voyez, le regard divin là-dessus. Selon le dessein arrêté et selon la prescience de Dieu. Il dira aussi au chapitre 4, verset 28, « Pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient déterminé d'avance. » C'est par ce même acte que Dieu a voulu que la vie d'un grand nombre soit sauvée. Jamais, jamais, jamais. Les amis, devons-nous chercher à minimiser le mal dans le monde? Il faut lutter contre le mal. Nous ne sommes pas des fatalistes ni des pacifistes à tout prix. Non. Mais le croyant ne peut pas s'empêcher de voir la main souveraine de Dieu aussi à l'œuvre derrière la scène. La main cachée de Dieu qui contrôle les événements de façon à ce que son plan de bénédiction en Jésus-Christ s'accomplissent. C'est le cas suprêmement à la croix. C'est le cas aussi dans tous les détails de nos vies. Que Dieu soit à l'œuvre pour sa gloire, malgré ce qui se passe, est un soulagement immense pour le croyant. Même si nous n'arrivons pas à voir comment encore aujourd'hui cela pourrait toujours être le cas. Nous voyons ces exemples bibliques, ce qui est arrivé à Joseph, ensuite ce qui arrive à Jésus. Et même si dans nos propres exemples, dans nos propres vies, il se peut bien qu'on n'arrive pas à voir pourquoi Dieu a souverainement permis ce qui m'est arrivé, je peux néanmoins affirmer qu'il est à l'œuvre pour le bien de tous ceux qui l'aiment. Cela nous permet de dire que même si les événements me dépassent, le désastre, la division, les critiques injustes, j'en ai parlé juste à quelqu'un hier par rapport à ça, la maladie, l'accident dont on a parlé récemment dans une autre église de notre association qui fait qu'un enfant de 5 ans a des doigts écrasés, le visa dans d'autres dans notre église qui n'arrivent pas à obtenir, la mort d'un proche, la violence conjugale, le divorce même. Dieu, il n'a pas perdu le contrôle. Dieu, il est plus grand qu'on ne le pense. Mais non seulement cela, chers amis, dernièrement, il est bien plus compatissant qu'on ne le pense. Rien qu'un verset pour celui-là. Vous voyez ça au verset 21 du chapitre 50. Cela se voit dans l'action de Joseph, cet homme qui sert avec son frère Judas. Nous avons déjà remarqué cela comme modèle de Jésus-Christ, ultimement. Leader pour le peuple de Dieu qui viendra pour sauver lui, Jésus aussi, un peuple qui mènera, lui, Jésus, un peuple de la mort à la vie. Et sera-t-il compatissant, ce Jésus? On regarde à Joseph qui nous donne le modèle. Est-ce que Joseph sera-t-il compatissant car ses frères méritent sa compassion? Non, il ne le mérite pas, sa compassion. Même après 20 ans de soi-disant réconciliation, ils ont gardé ce doute au sujet de Joseph. Et du coup, ils essaient de mettre de la pression sur Joseph en lui parlant de son père bien-aimé. Mais Joseph, il est peiné que eux pensent cela par rapport à lui, qu'il ne sera pas compatissant à leur égard. Et voyez-vous, il ne réagit pas avec colère, ni de façon indignée. Comment peux-tu penser ça de moi? Ni avec une fierté blessée où il se met au centre de ce monde. Mais il réagit avec compassion. N'ayez pas peur. Je vais pouvoir tous vos besoins et à ceux de vos familles. Oui, il les consola, nous dit le texte, et parla à leur cœur. N'est-ce pas magnifique cela? Combien c'est riche en émotions pour ses frères, avec toutes ces 20 ans d'anxiété, de découvrir cela. Même s'ils l'ont découvert il y a 20 ans, ils devaient une nouvelle fois l'apprendre, l'expérimenter. Jésus aussi, chers amis, ne nous traite pas avec justice. Si nous nous tournons vers lui, il nous traite avec de la compassion, de la grâce. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Oui, même avec des chrétiens qui doutent de cela, peut-être des chrétiens déjà de 20 ans, qui sont peinés encore aujourd'hui par leur péché. À un point, comme quelqu'un me l'a dit, juste il y a 15 jours, qui peuvent se poser la question suivante, même après un long parcours dans la foi chrétienne, suis-je pour finir vraiment sauvé? Acceptera-t-il Dieu, moi, avec ce parcours tellement vacillant? Et la réponse est oui, parce qu'il est un Dieu compatissant. Un pasteur m'a raconté, il y a 15 jours, qu'il recevait un coup de fil de la part de quelqu'un qui fréquentait son assemblée à lui, il y a 20 ans, bien avant que ce pasteur soit le pasteur de cette église-là. Et cette personne a confessé au téléphone, 20 ans plus tard, le vol d'une poupée distribuée par un chrétien lors d'une campagne d'évangélisation. Cette personne avait aidé dans l'emballage des colis et en faisant cela, a procuré un petit exemplaire pour lui-même. Pour elle-même. 20 ans plus tard, ça continue à travailler son esprit. 20 ans, vous imaginez, pour une telle chose. Et il a dit, donc à mon ami le pasteur, puis-je venir vous rendre cette poupée? Mieux vaut tard que jamais, bien sûr. Mais ne pense pas que Dieu ne te pardonnera pas. Pour ton péché, même en tant que chrétien. Il se peut que tu crains que cela soit le cas, que ton péché t'empêche de t'approcher de Dieu et de trouver grâce à ses yeux. Parce que tu es accablé, ça arrive aussi dans notre Église, accablé par ton péché. Tu en as honte à un point que tu as du mal à même venir ici dans l'Assemblée. Car tu penses que les autres te regardent, que tu n'as pas ta place parmi nous. Dieu est bien plus compatissant qu'on ne le pense. Venons à lui. Ne porte plus le poids de ton péché toi-même. sache que oui, même après 20 ans, on peut avoir besoin de connaître cette vérité dans un sens fondamental, basique. Dieu ne nous accepte pas sur base de notre performance spirituelle dans la vie, mais sur base de la performance de Jésus-Christ à notre place. C'est une bonne nouvelle. Et donc, ayons, nous aussi, chers frères et sœurs, de la compassion, nous-mêmes, comme Joseph, au sein de notre assemblée. Comme dit, Jésus disait, « Comme je vous ai aimé, aimez-vous les uns les autres. » Cela m'attriste qu'on peut parfois réagir en tant que chrétien envers ceux auprès de qui nous avons péché avec crainte et tremblement, de peur que leur colère s'enflamme suite à notre action. Mais quelle est la réaction d'un croyant en Jésus-Christ de refléter la même compassion dont nous avons bénéficié de sa part? Voilà, les amis, on arrive à la conclusion. Notre conclusion, c'est la conclusion de ce texte, la conclusion de ce livre, la mort de Joseph. Qu'est-ce qui arrive à Joseph? Lui, il est enterré en Égypte, pas en Canaan. Mais il donne des ordres que ses ossements soient menés aussi à un moment donné à Canaan. Pourquoi? Car il continuait à croire dans ce Dieu plus puissant qu'on ne le pense, plus grand qu'on ne le pense, plus compatissant qu'on ne le pense. Il continuait à avoir une pleine confiance, verset 24, que Dieu interviendra en faveur de ce peuple d'Israël. Il vous fera monter de ce pays-ci vers le pays qu'il a promis par serment à Abraham, à Isaac et à Jacob. Et dans verset 25, quand Dieu interviendra en votre faveur, vous emporterez d'ici mes ossements. Il meurt, c'est la fin du livre, mais Moïse et ensuite Josué, n'oublie pas cette demande de la part de Joseph. On lit plus tard, Exode 13, juste au moment de l'Exode, verset 19 de Exode 13, Moïse prit avec lui les ossements de Joseph. Car Joseph avait fait jurer des fils d'Israël en disant, « Certes, Dieu vous visitera et vous ferez remonter mes ossements avec vous, loin d'ici. » Et Josué, chapitre 24, les Israélites avaient rapporté d'Égypte les ossements de Joseph. Ils furent enterrés à Sichem, dans la partie de terrain que Jacob avait achetée au fils de Hamour, le père de Sichem, pour 100 pièces d'argent, et qui faisait partie de l'héritage des descendants de Joseph. Que dit le Nouveau Testament en conclusion par rapport à cela? Hébreux chapitre 11, verset 22. C'est par la foi que Joseph, à la fin de sa vie, a fait mention de la sortie d'Égypte des Israélites et a donné des ordres au sujet de ses ossements. Joseph, voyez-vous, il avait raison. Il anticipait encore la vie après la mort. Dieu, pour Joseph, était digne de sa foi. Alors, notre Dieu, il est digne de notre foi. Après la venue de Jésus-Christ, la bénédiction qui découle de lui grâce à sa mort, à sa résurrection, nous pouvons non seulement croire en lui, non seulement attendre la réalisation finale de ses promesses dans la nouvelle création, mais nous pouvons également célébrer notre Dieu. Ce Dieu plus puissant, plus grand, plus compatissant qu'on ne le pense. Donc croyons en notre Dieu, attendons-le, célébrons-le. Je vous invite à prier, chers amis. Quelle joie de connaître notre Dieu. Connaître ta puissance, Oui, ta grandeur qui nous dépasse, mais aussi ta compassion révélée ultimement dans ton Fils et la grâce qui découle de la croix de Jésus-Christ. Donne-nous, en tant que disciples de Jésus-Christ, de grandir dans ta connaissance. Donne-nous de refléter cette connaissance dans notre façon d'interagir les uns les autres. Glorifie ton nom parmi nous, nous te prions.